Ici Podcast.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ici Podcast pour un nouvel épisode avec Félix Babeau. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Bonjour, merci à toi de m'inviter. Alors, je suis diplômé d'histoire de l'art et d'histoire, donc j'ai fait une licence d'histoire de l'art, master d'histoire et master d'histoire de l'art. Et je pense que ce qui va le plus vous intéresser ici, c'est mon master d'histoire de l'art dédié à la licence Pokémon, justement, qui tourne autour des notions de design inhérentes à la licence Pokémon. Je me suis concentré en fait sur la période entre 1990 et 2000. Donc 1990 avant que le jeu sorte, parce que c'est une date à laquelle on sait que les créateurs du jeu ont présenté un premier dossier à Nintendo en disant « voilà les bases du jeu ». Et les années 2000, parce que même si le jeu est sorti en 96, les années 2000, en fait, il y a eu un après-coup parce que ça a été une sorte de Big Bang. Et voilà, donc j'ai voulu étudier toute cette période qui est la gestation du premier jeu Pokémon et la période post-création, donc un peu les années Pokémania.
Où ça a été popularisé et ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur.
C'est ça, où en fait, tu as toute la machine de merchandising qui s'est développée et qui a créé un raz-de-marée de produits promotionnels, de produits de consommation. Des boîtes Choupa Choups, les pieds d'oreiller, les pyjamas, les voitures.
Voiture, je savais pas.
Ça partait. Okay. Ah, mais si, t'as une voiture, je crois que c'est dans les années 2000, t'as une sorte de coccinelle jaune.
Pikachu.
Ouais, bah tu sais, t'as les avions.
Ouais, ça j'avais vu.
T'as la compagnie, ouais, qui a beaucoup.
Compagnie japonaise qui a fait une collab avec Pikachu.
C'est ça. Anna, je crois que c'est Anna.
Ok. Et tu travailles aussi au musée d'Orsay actuellement ?
Ouais, je suis installateur d'œuvres d'art.
Ça consiste en quoi, rapidement ?
Manipulation, manutention, accrochage, c'est moi qui manipule les œuvres d'art en partie avec mon équipe au musée d'Orsay, voilà.
D'accord, pour revenir rapidement sur ton mémoire, donc du coup toi tu es fan de Pokémon ?
Ouais, c'est une licence que j'apprécie beaucoup, surtout les premières générations, les deux premières générations, voire la troisième, qui est pour moi une sorte d'apothéose avec la version Emerald. Dès qu'on ajoute des nouveaux Pokémon dans la liste de Pokémon, en fait ça crée une nouvelle génération de Pokémon et on sépare les générations comme ça. Et donc Emerald, c'est la troisième génération, c'est la troisième fois qu'on a ajouté des Pokémon.
Et c'est une version qui est très très populaire auprès des gens des années 90, puisqu'ils avaient le recul, la maturité pour apprécier encore plus le jeu. Comment t'as connu Pokémon, si tu te rappelles ?
Je dirais que moi, le premier vrai contact qui m'a marqué, c'est je savais pas lire. Et en fait, ma grande sœur a eu deux Game Boy pour son anniversaire avec deux jeux Pokémon. Et bah du coup, mon anniversaire était pas longtemps après. Donc je me suis retrouvé avec le doublon et je savais pas lire que j'avais Pokémon version rouge entre les mains. C'était fou, ça m'a appris tellement de mots de vocabulaire, genre je pouvais à 6 ans sortir le mot déflagration, blizzard,
ouais.
Julien Bardakoff, qui est le traducteur, a fait un travail de dingue et s'est beaucoup donné en fait pour qu'on ait toute cette richesse de vocabulaire dans le jeu, y compris dans les noms des Pokémon, qui ont des jeux de mots, en fait, c'est que des jeux de mots pour la
plupart. Ouais, c'est justement, j'allais en parler, par exemple, Dracaufeu, c'est pas le meilleur exemple, parce que c'est c'est l'acronyme
de dragon.
Bah si,
parce qu'en fait, t'as Salamèche, donc Salamandre,
ouais.
Mèche, Reptincelle, le reptile, et l'étincelle, qui fait au feu le dragon, Drac, la base, même si ça a ajouté un peu des confusions, parce qu'en fait,
Dracaufeu, il n'est pas de type dragon dans le jeu.
Il est plus lié au dinosaure, en fait, Reptincelle, ouais. C'est plus un raptor. On a aussi ce jeu de mots-là, mais bon, pour le Drac au feu, ça a créé la confusion. Mais...
Enfin, tout ça pour dire que les noms des Pokémon qui sont traduits en français, c'est souvent le Pokémon, le type, il y a toujours un jeu de mots derrière. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Toi, je sais que tu as vu un peu sur la partie design dans ton mémoire. Comment ils créent les Pokémon ? Est-ce que tu as des idées de comment ils créent, sur quoi ils se basent ? Comment ils déterminent le nom, le type, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ?
En fait, à la base, tu as plutôt t'as l'idée de créer des espèces de soldats. En fait, c'était une idée de volonté de créer des avatars que tu vas contrôler. En fait, chaque Pokémon, c'est un peu un gameplay. Un Pokémon, c'est une façon de jouer. Pikachu, il est petit, rapide. Tu le mets contre un gros truc fort et lourd, il va avoir un peu de mal. Chaque Pokémon a une identité, tu ne les joues pas de la même façon. Les types sont venus un peu après, même si on sait que très tôt, tu avais l'idée d'un dragon de feu. Tu avais des idées d'ajouter des éléments qui viennent de Donjons et Dragons, tout ça, la magie élémentaire. Donc là, intégré dans un espèce de microcosme logique, tu vois, c'est une faune avec une flore un petit peu. Par exemple, pour Pikachu, quand elle l'a créé, elle savait que c'était quelque chose de plutôt petit, rapide et de type électrique. Donc elle est partie de l'écureuil qui stockait des noisettes dans sa bouche. Elle s'est dit, tiens, une sorte d'écureuil qui va stocker de l'électricité dans ses joues. Et elle a associé ça à un petit dessert japonais pour avoir une petite forme un peu sympa, et ça a donné Pikachu.
Pikachu de base qui devait pas être la mascotte.
C'est Mélo fait, ouais. En gros, il y a eu t'en avais trois en liste, ils faisaient des votes en interne pour savoir quels étaient les Pokémon populaires. Et t'avais par exemple Titar, Melodelph et Pikachu ont été des mascottes.
Potentiel, ouais.
Ouais, c'est ça. Titar, juste
je sais
potentiel.
que.
Mélofée l'a été vraiment dans un manga.
Ouais, mais Melofée a été considéré, il y a eu le manga aussi autour de ça, et surtout ils avaient peur que ça fasse trop fille, et ils avaient peur de perdre des parts de marché avec Melofée, puisque c'était un Pokémon, en fait il est rose,
C'est ça.
et je pense que c'était associé un peu aux filles à l'époque, et du coup ils sont partis sur Pikachu, et surtout je sais que la couleur jaune c'est une couleur qui est très, très forte, par exemple les taxis à New York ils sont jaunes parce que c'est la couleur qu'on reconnaît le plus, donc je pense qu'ils se sont servis de ça aussi pour déterminer leur mascotte. Je sais que Pokémon a beaucoup évolué, on a discuté un petit peu avant, tu m'as dit comment ils sont partis du prototype de base avec les idées pour arriver à être une des entreprises les plus rentables actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur l'évolution?
Alors, le mec qui a créé Pokémon, Satoshi Tajiri, à la base, c'est un mec qui est fan de jeux vidéo, très obstiné. À 14 ans, le mec bricolait des antennes radio pour essayer d'entendre le plus loin dans le monde. C'est un mec qui était fan aussi de collection d'insectes quand il était enfant. Ça, c'est l'histoire vraiment que tout le monde connaît. Et il s'est mis en fait à aimer les jeux vidéo petit à petit. Il est plus rentré dans cet univers peut-être un peu plus urbain. Donc, il a créé un magazine, ça a beaucoup marché. Il a interviewé des joueurs pros, tout ça. Ça, il a commencé à avoir une notoriété. Il a eu, comme il partait dans l'informatique aussi, à 14 ans, il bidouillait des trucs radio. Après, il bidouillait des ordinateurs. Il s'est dit, je vais créer un jeu. Il a créé Quincy, Mendel Palace, aux États-Unis. Son objectif, c'était de faire un jeu international, un truc qui serait universel. Tout le monde comprend, genre un peu comme Tetris. Et donc, j'imagine qu'avec son goût pour la nature, la théorie de l'évolution, qui est quelque chose qui est assez communément partagé, il s'est dit, ça être quelque chose d'intéressant à introduire, puis c'est très éducatif en plus.
Comment ça s'est fait entre le moment du projet et le moment où on pouvait y jouer? Est-ce que tu as des anecdotes dessus?
Ouais,
Comment ça s'est
carrément.
construit?
Carrément. Alors, donc c'est une assez petite équipe. Ils sont on va dire, en fonction de la période du projet, parce qu'il y en a qui sont partis, ils sont entre 6 et 12. Ceux qui sont sur le cœur du jeu, c'est vraiment une dizaine de personnes en moyenne. Le jeu, bah, ils se sont posés toutes les questions qu'on se pose pour créer un jeu de rôle, c'est-à-dire comment on design la carte. L'Overworld,
La carte du monde
c'est
du
ça,
jeu
ce qu'on
vidéo, ouais.
appelle l'Overworld, c'est-à-dire le sol sur lequel ton personnage se déplace, quels sont les éléments visuels qu'on retrouve dessus, qu'est-ce que tu racontes à travers ces éléments, t'as plein d'éléments
L'histoire, ouais.
théoriques. Le musée, tu vois, l'idée d'ajouter un musée dans Pokémon, c'est quelque chose qui est très
Ouais.
intéressant, et ça se calque sur des géographies. La partie de Kanto, donc le premier monde de
C'est la
Pokémon,
première région,
c'est
ouais,
ça,
qui est basée sur le
c'est
Japon.
ça, il s'appelle Kanto, comme la région de Kanto au Japon, et en fait, on peut retrouver, c'est comme un schéma de métro, mais globalement, aux endroits où tu as des villes dans Pokémon, tu retrouves des vraies villes,
Dans la réalité.
qui ont des particularités similaires. Donc,
Ouais, donc il avait quand même cette idée de parler du Japon à travers son
un jeu, en
jeu.
fait, un jeu vidéo ancré dans le réel. C'est vraiment plein de Pokémon sont basés sur
Des animaux qui
ça,
existent.
des animaux qui existent, sur des légendes qui existent. Les yokai au Japon, tu as Fenar, qui est le Kitsune, le renard à neuf queues, qui est un esprit charmeur. C'est vraiment, ils ont pioché dans le folklore international, parce que par exemple, Elector s'inspire d'un oiseau qui est plutôt africain. Chenipan, c'est une chenille qui est plutôt tropicale.
Et je sais qu'il y a aussi Magikarp,
Ouais.
le poisson qui en remontant la cascade devient
Exactement.
Léviator, le
Magikarp, la
dragon.
légende de la carpe qui, par sa volonté, remonte la cascade et, récompensée de cet effort, se transforme en dragon, qui est une métaphore en fait de tout travail appelle une récompense. Ouais, c'est ça, tu te surpasses par le travail et par tes efforts.
Donc ce projet, quand il a été commencé à être créé, après, ils l'ont proposé à Nintendo qui l'a validé. Nous, on a pu l'avoir. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Pokémon ils aient séparé en fonction des générations les jeux? Puisque moi, je me souviens qu'à la base, dans le code source du jeu, il y avait plus de Pokémon que les 151 qu'on
Ah bah
connaît.
ça, t'as eu des gros leaks, fin des...
Ouais, des informations qui ont
Ouais,
fuité.
c'est ça, t'as eu des grosses informations sur la deuxième génération de Pokémon, où en fait, tu retrouves Même sur la première, il y a plusieurs Pokémon qu'on retrouve dans les Pokémon non utilisés de chaque génération. En fait, on en retrouve qui vont être exploités après. Tu as par exemple Gorochu, mais alors elle n'a jamais été utilisée. On a des images. Par exemple, Tortank, à la base, Tortank, pareil, qui n'a jamais été utilisé. C'était en gros Carabaf. Tortank était une ligne différente de Carapuce.
Enfin, ah, donc Carapuce, il ne devait pas évoluer en Carabaf.
C'est ça. En gros, tu as ces deux lignes évolutives différentes qui ont été remixées à la fin.
Et est-ce que tu sais comment ils ont choisi le fait d'avoir des starters? Pourquoi on a un starter feu, pourquoi on a un starter plante, pourquoi on a un starter eau, et pourquoi le starter, il a toujours deux évolutions?
Alors, ça, on n'a pas d'éléments formels qui en parlent, mais alors on peut faire des hypothèses là-dessus assez facilement. C'est que dans tous les cas, quand tu commences un jeu, il te faut un élément de départ, il te faut quelque chose pour te familiariser. Et je pense qu'ils sont partis sur une pyramide élémentaire excessivement basique qui te permet de comprendre cette mécanique du...
C'est-à-dire le feu qui brûle la
C'est
plante,
ça, exactement.
la plante qui est forte contre l'eau et l'eau qui est forte contre le feu.
C'est ça, exactement. Ces mécaniques de pierre, feuille, papier, ciseaux, en fait, le Shifumi classique. Et alors, ils ont eu des doutes sur les starters. Et par contre, il me semble que les trois ont été conçus dans l'idée d'être des starters. Et donc, il fallait qu'ils aient une identité forte. Et pourquoi les deux évolutions? Parce que je pense que comme c'est un Pokémon qui est censé t'accompagner tout au long de l'aventure, c'est bien qu'il ait deux gaps de puissance.
Et ouais, qu'il évolue avec toi.
C'est ça, exactement. Que tu le vois évoluer davantage, que tu l'utilises plus longtemps, et qu'en fait tu saches qu'il y a des Pokémon qui évoluent deux fois.
Là, on a beaucoup parlé du jeu vidéo. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des cartes?
Bien sûr.
L'élément un peu physique phare en ce moment. Pour moi, c'est même maintenant beaucoup plus populaire que le jeu, j'ai l'impression, sur les jeunes générations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ils ont eu l'idée de mettre un produit physique? Parce que par exemple, il n'y a pas de carte à jouer Mario.
Le principe de Pokémon, les mécaniques de jeu de Pokémon se prêtent très très bien au jeu de cartes à jouer et à collectionner.
Oui, parce que pour préciser que Pokémon de base, c'est un jeu de cartes comme vous allez jouer à la bataille. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont imposées, il y a une façon de jouer. Ce n'est pas juste des cartes qui sont belles esthétiquement. Il y a tout un gameplay, une façon de jouer associée.
C'est ça, on le distingue du jeu de cartes à collectionner. C'est tiré de Magic the Gathering,
oui.
Qui est le précurseur de ce format-là. Et en fait, Pokémon, avec la rareté des Pokémon... Comme tu vas dans des hautes herbes pour rencontrer des Pokémon qui ont des probabilités d'apparition plus ou moins élevées, c'est pareil dans le paquet de cartes. Quand tu ouvres un paquet de cartes, tu as des raretés différentes. Tu as une carte rare et peut-être brillante. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que tu espères avoir ton Dracaufeu brillant dans ton paquet de cartes et c'est un système aléatoire qui va te le donner ou pas. Et en fait, c'est le même mécanique d'aléatoire que tu retrouves dans le jeu vidéo. On peut aller plus loin hein, sur le par exemple, le deck dans le jeu de cartes Pokémon est censé représenter l'ordinateur du jeu vidéo dans lequel tu stockes tes Pokémon et tes objets.
D'accord, la boîte PC.
C'est ça, exactement. Okay. C'est censé être ta boîte PC. Tu as 6 Pokémon en jeu. Tu sais, tu as un Pokémon qui est ton Pokémon actif, celui avec lequel tu combats, et en fait, tu as une zone de préparation où tu mets tes 5 Pokémon que tu prépares.
Dans le jeu de cartes,
ouais. Dans le jeu de cartes, et en fait, ça fait 6 Pokémon comme une équipe de 6.
Ok, donc ils ont voulu vraiment faire un parallèle entre le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, il est sorti avant.
Tout à fait.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, on fait un petit rappel. Le jeu vidéo, il est sorti avant le jeu de cartes. À la base, Pokémon, ça devait être que un jeu vidéo, et avec l'engouement, ils ont décidé d'en faire un jeu de cartes. Est-ce que tu sais la personne qui a été à l'origine
un petit peu de ce choix? Ouais, c'est Tsune Kazuhi Ishihara. Qui vient du studio Ape, qui a rejoint Game Freak et qui est directeur général de la Pokémon Company maintenant. C'est lui qui a eu l'idée, en fait, de se dire...
Game Freak, c'est l'entreprise où il y a eu Pokémon?
C'est ça, ouais, Game Freak.
D'accord. Avant d'être intégré à Nintendo, qui est la structure un peu plus grande.
En fait, Pokémon Company sont gérés par 3 entreprises. T'as Nintendo, Game Freak et Creatures Inc.
Ok, et alors, du coup, la personne qui a permis de faire les cartes, c'était quoi son raisonnement?
Le succès de Magic, c'est-à-dire que je pense qu'il a eu des cartes Magic entre les mains, qui s'est dit,
il y a un potentiel.
Le système aléatoire et le concept même de Pokémon, de rencontre aléatoire et le système même de Pokémon, ça marche, ça cartonne, donc on a les moyens de produire, c'est-à-dire qu'ils ont eu toute une industrie de production de cartes qui était déjà prête, donc c'était vraiment, ça leur coûtait pas grand-chose de tenter le coup, et ça a été une idée de génie, tu vois.
Ça a été rentable pour Pokémon, pour Nintendo, pour tout.
Ils sont à plusieurs dizaines de milliards de cartes imprimées, c'est vraiment impressionnant.
Donc avec ton regard de professionnel d'art, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Pokémon, les cartes Pokémon, elles marchent aujourd'hui et comment tu vois l'avenir de ces cartes?
Je dirais que si la carte Pokémon marche aussi bien, c'est que donc déjà tu avais un support jeu vidéo avec toute une entreprise de merchandising qui était hyper bien implantée. Et tu as eu donc le succès du jeu vidéo, qui est un jeu vidéo que personnellement je considère comme un chef-d'œuvre. Et la postérité peut laisser sous-entendre que voilà, ça a été une pièce assez importante dans l'histoire du jeu vidéo. Donc on arrive avec cet élément-là, donc un jeu fort auquel on associe un nouveau type de jeu qui est le jeu de cartes. Avec un système aléatoire qui est aussi très intéressant finalement, ajoute du réel à ce qui était virtuel. C'est-à-dire que le Dracaufeu que j'emmène sur ma Game Boy, j'ai plus de piles, il est plus là. Par contre, ma carte, elle est tangible. Je peux la montrer à mes copains, je peux la regarder sous toutes les coutures, elle s'abîme. Donc c'est vraiment quelque chose de matériel. Et je pense que associer ces deux éléments-là, la richesse du jeu Pokémon, de son imaginaire, a une richesse visuelle qui permettait en plus d'étoffer les visuels du jeu vidéo, parce que c'est 56 par 56 pixels, l'image d'un Pokémon sur le premier jeu, c'est tout petit. Là, on arrive sur une taille qui est beaucoup plus grande.
Et surtout, c'est réalisé par des illustrateurs professionnels, il y a toute une portée artistique, pour revenir un petit peu sur le sujet,
c'est ça.
Qui est intéressante.
Ça a lancé la carrière de Mitsuhiro Arita, qui grâce à ça... a vraiment lancé une carrière d'illustrateur indépendant. Ça a eu la chance de le lancer, de se rendre compte qu'il avait créé quelque chose qui a fonctionné. Donc ses dessins peuvent plaire. Ça a été plusieurs éléments qui se sont mis ensemble pour aboutir à un succès assez exceptionnel. Rendre physique un jeu vidéo a été un élément vraiment important.
Et au niveau du côté œuvre d'art, avec des grands guillemets bien sûr, hein, on ne va pas comparer ça à des œuvres uniques, mais qu'est-ce que tu en penses toi par rapport aux gradations, le fait que les cartes elles sont un petit peu singularisées, qu'elles sont un peu figées dans le temps, est-ce que tu penses que ça va continuer à prendre de l'ampleur avec les années?
La gradation c'est une très très bonne méthode de protection. Aujourd'hui c'est juste que, moi j'utilise assez peu la gradation, mais c'est faute de moyens, faute de place aussi, parce qu'il faut se dire qu'une carte gradée prend beaucoup plus de place qu'une carte en loose, une carte qui n'est pas dans un boîtier. Et donc pour le stockage, c'est beaucoup plus simple d'avoir... Mais par contre, le risque, c'est d'abîmer une carte. Dans un boîtier, c'est plutôt joli. T'as des entreprises en plus maintenant qui habillent assez joliment les étiquettes de notes, donc on peut vraiment faire des choses assez esthétiques. Non, c'est une très bonne façon de mettre en valeur, et même de les mettre en valeur après. Je pense que pour conserver une carte, le boîtier est à l'heure actuelle une des meilleures solutions.
Parce que moi, ce que j'aime bien avec la gradation, c'est vraiment le fait qu'on se dise « Ok, c'est ma carte, elle a cette note-là », et je trouve que ça lui donne encore plus de valeur, aussi bien sentimentale que financière.
T'as des gros enjeux économiques hein, derrière.
Pour moi, ça, c'est une partie intégrante de la collection Pokémon. Je trouve que c'est pour ça aussi qu'elle a eu ce nouvel élan avec le confinement où les prix, ils ont pris, 2000%.
Les gens,
une augmentation c'est ça. Complètement folle.
En gros, moi, 2013, j'ai acheté un booster set de base édition A, 35 euros. Juste avant le Covid 2019, mon paquet à 35 euros, il était entre 80 et 120 euros. Pour donner une idée, ce qui était l'évolution naturelle, avec David Lafarge, tout ça, qui a relancé un peu, on va dire, autour de 2010, il y a eu un début de cote qui se crée, qui est très lent, qui est vraiment très progressif, très tranquille. Donc, comme je te dis, en 6 ans, on fait un petit x3. Et là, à partir de 2019, tu as le Covid et le paquet qui était à une centaine d'euros devient à 500, puis atteint 1500 sur une période de 2 ans, on va dire. Et là, ça part vraiment live.
Mais est-ce que tu penses que toi, le fait qu'il y ait cette rareté, cette recherche, est-ce que tu penses que ça va pérenniser dans le temps?
La rareté va gagner. Pour moi, c'est un format qui va gagner en rareté, mais elle est irrationnelle. C'est-à-dire que j'avais fait l'exemple avec le Dracaufeu. Set de base édition A Shadowless.
Donc c'est une carte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu c'est un peu la Joconde.
C'est la première carte éditée, c'est les premières séries américaines du jeu de cartes Pokémon, c'est les premiers tirages américains. C'est ce qui cote le plus cher dans les tirages avec les premiers tirages japonais, mais ça cote vraiment pas mal.
C'est une valeur de référence quoi.
C'est ça. Et en fait, le Dracaufeu a rareté à peu près égale avec le Tortank, tu fais 1x10. C'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument pas la rareté qui définit le prix, c'est l'offre et la demande. Hein. Mais Dracaufeu, de par sa popularité, est vraiment mis au-dessus. Et donc, en fait, c'est une histoire de pièces. Ça va être en fonction de la pièce que tu achètes, Si tu as un,
Donc la
t'as
carte,
le
c'est
nez creux,
ça?
ouais, c'est ça. Là, quand je dis la pièce, c'est la carte. Si tu as le nez creux, tu vas par exemple la collection. Tu as une exposition Edvard Munch au Japon, je crois que c'est
Ouais,
2018. Et ils ont
bien.
fait des cartes
Ouais.
en partenariat. Le musée a fait des cartes. Et ça, par exemple,
Ouais.
moi j'en ai pris, je savais que ça allait monter. Mais parce que dans l'histoire de l'art de la carte Pokémon, c'était vraiment ultra intéressant.
C'est une collaboration qui est folle, hein,
Ah bah c'est
quand même.
génial, c'est génial, ça a super bien marché. C'est intéressant, moi je trouve ça beau. Je trouve que c'est vraiment ce jeu que le Japon arrive à mettre en place. Ou même eux, ils vont plus loin. Ils ont mis le jour de l'eau, la mascotte c'est Aqualie, c'est un Pokémon. Genre ils ont
Ah
intégré
oui,
dans leur
donc
culture,
c'est dans
quoi.
la culture.
Ouais, bah
OK.
ouais, c'est un monument. Ils capitalisent là-dessus et je pense qu'en soi,
Culture culturelle, ouais.
ouais, c'est une base saine. C'est plutôt sain, tu vois. Un peu des super-héros anthropo. C'est éducatif, je pense qu'ils s'en servent beaucoup. C'est des éléments que les enfants aiment. Donc ils s'en servent
Oui,
pour
au
faire.
Japon, c'est vrai qu'ils sont fans des mascottes
Ils
aussi,
s'en
c'est
servent
vrai,
pour
c'est
faire
vrai.
passer des messages à mort.
Donc pour toi, avec les collaborations qu'il y a eu à travers les musées, le fait qu'il y ait une rareté qui soit toujours plus importante, le fait que les Japonais, des enfants, ils reconnaissent les Pokémon par des mascottes, tellement c'est dans leur vie de tous les jours. Moi, je sais qu'il y a même des parents en France qui vont éduquer leurs enfants à Pokémon, un peu comme le même phénomène qu'on a avec Disney. Pokémon qui est une des entreprises les plus rentables. Donc toi, tu penses que ça peut continuer de prendre encore plus de valeur avec le temps?
Ouais, c'est ça. En fait, alors ça va. C'est sur du là. Si on part sur
P
du,
pas de valeur financière, c'est mais
alors
juste une
si
valeur culturelle.
historiquement si. Hein. Ouais,
Aussi,
bah
ok.
si ça a une valeur culturelle, ça a une valeur financière.
D'accord.
Ouais, bah ouais. Pour de la ponctualité, je veux dire pour des trucs les plus rares, si c'est culturellement très ancré, forcément ça va avoir plus de valeur. Mais en gros, sur du très long terme, imaginons la Pokémon Company qui nous sort des jeux. Moi, je suis assez mitigé sur la qualité des jeux qui nous sortent. Les équipes sont trop petites, ils n'arrivent pas. Mais c'est compliqué, hein, c'est une très grosse boîte. Donc, il faut que tu as toute une chaîne de prod derrière qui est infernale pour le merchandising et tout. Donc, je ne leur en veux pas spécialement, mais ils pourraient sortir beaucoup mieux. On le voit avec Zelda Breath of the Wild, qui est vraiment le pendant qu'on sort souvent en termes de jeux vidéo, qui est un jeu vidéo avec une très grande ambition. En fait, s'ils nous sortent des jeux qui sont de moins en moins bons, et ils capitalisent juste sur le design, ça va s'essouffler. Pour moi, il y a une part qui va s'essouffler. Alors, les premières générations, comme c'est un pilier historique du jeu vidéo, pas forcément. Moi, je vois ça en termes d'histoire. Quand tu racontes une histoire à très très grande échelle, quels sont les éléments que tu vas garder si tu dois épurer ton texte? Qu'est-ce que tu gardes? Et je pense que dans l'histoire du jeu vidéo, Pokémon aura toujours sa place. Et donc, la carte à jouer et tout ce qui en découle, en fait, l'univers Pokémon. Et certains éléments beaucoup plus que d'autres, genre tout ce qui va toucher à Dracaufeu, ça va être priorisé.
Plus recherché, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais Pokémon, pour moi, dans l'histoire du jeu vidéo, qui est un art aujourd'hui, c'est pas un art physique, on a du mal à comprendre, mais justement, la carte Pokémon, pour moi, participe à cette implémentation du jeu vidéo et de sa culture dans le monde de l'art, et à le considérer comme des collections, en fait, au même titre qu'avant, on collectionnait des tableaux, parce
Des
que,
timbres.
ouais, c'est ça.
Enfin, je prends l'exemple des timbres parce qu'il est plus parlant, je pense, par rapport au. Il y avait les cartes magnétiques aussi, les cartes téléphoniques qui
Ouais,
ont été pas mal collectionnées. Et je trouve que c'est un peu plus facile de faire le parallèle avec les cartes Pokémon,
je comprends.
même si l'avantage de Pokémon, comme tu l'as présenté, c'est que c'est un phénomène mondial qui dure dans le temps.
Bah moi,
Donc,
je parlais justement dans le temps parce que les tableaux, ça a été longtemps quelque chose.
oui.
Collectionner des images a toujours été quelque chose qui, par exemple, tu
C'est
fais un
vrai.
voyage, tu arrives à avoir une image qui représente l'endroit où tu as voyagé parce que tu l'as vu, donc tu sais que c'est ça. Ça crédibilise quelque chose. Et bah là, c'est pareil, la carte Pokémon crédibilise quelque chose du jeu vidéo. Enfin, ça a été un espèce de coup de génie assez intéressant. On part d'un jeu avec lequel les gens ont eu plein d'émotions parce que c'est comme un petit film, il y a un scénario, il se passe des choses, et bim, d'un coup, on upgrade la qualité, on donne une amélioration visuelle avec la carte.
Et comment le monde de l'art perçoit Pokémon?
J'ai beaucoup d'amis, moi, en histoire de l'art, vu que c'est mon cursus,
Ouais.
c'est mitigé. Beaucoup me
Ok.
soutiennent que.
C'est clivant. Ok.
Ouais, c'est ça, ils sont en mode. Alors, oui, je comprends que ça ait cette valeur, mais c'est bizarre quand même. Et en fait, quand tu leur expliques que, ouais, mais c'est une chaîne de production qui est compliquée à remettre en place, c'est des encres, en fait, même si c'est un produit industrialisé.
Oui, c'est une technique de façonnage aussi qui n'est plus d'actualité.
Ouais, c'est-à-dire que retrouver les
Ouais.
bonnes machines, retrouver exactement. En fait, ça coûterait tellement d'argent que tu as une forme de certificat d'authenticité. Ouais,
D'authenticité.
c'est ça. Dans la matérialité de ta carte, voilà, qui fait preuve, après je dis ça, mais ça se trouve, tu as des très bons faux qui circulent. Et là, là tu vois, ça, c'est aussi une peur des collectionneurs, se dire.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve que l'authentification, c'est bien, parce que ça permet de montrer que ta carte, elle est authentique.
Ouais, c'est ça. Tu as des éléments. C'est, en fait, c'est, en réalité, quand tu connais bien la matière d'une carte, tu es capable de savoir si oui ou non, même si jamais elle a des erreurs d'impression, voir que ce n'est pas une fausse, mais que c'est des erreurs d'impression, parce que toutes les caractéristiques sont similaires, sauf ce détail qui est différent, et que c'est un défaut qui est après.
Lié à la machine, ouais. Mais je veux dire, moi, quand je te posais la question dans le monde de l'art, c'est par rapport à des œuvres d'art. Si vraiment on doit grossir le débat, est-ce que tu penses que...
Alors, moi, personnellement, je pense que le jeu vidéo Pokémon, il y a plusieurs jeux vidéo Pokémon qui ont été des œuvres d'art. C'est-à-dire que le jeu vidéo est une œuvre d'art. Je ne pense pas nécessairement qu'une carte Pokémon soit une œuvre d'art. Tu as des très belles cartes, mais ça reste du design. Il y a moins eu cet effet ultra dense qu'a été la production du jeu vidéo. Le jeu de cartes, ça a été la détente, hein. Ça a été quelque chose de beaucoup plus détente. Ils ont fait appel.
On pouvait le répéter. En fait, c'est là où le débat, je le trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder des cartes Pokémon, qui vont se dire ouais, c'est une œuvre d'art, ça me rappelle des émotions, etc. Mais dans les faits, c'est quand même une carte qui a été reproduite des milliers, des milliers, des milliers de fois.
Ouais, moi.
Donc c'est toi qui donne le regard artistique.
Qui va
d'un point de vue professionnel, c'est ça en fait.
Qui va s'approcher d'une œuvre d'art, pour moi, c'est les cartes prototypes, les cartes qui n'auraient jamais dû être vendues. Ce qui, pour moi, est le chef-d'œuvre.
Qui ont fait en une fois.
C'est ça. Et même le Graal, ce serait... beaucoup d'artistes, malheureusement, ont travaillé sur du numérique direct, mais c'est d'avoir le croquis original d'une carte, tu vois. Là, on toucherait à l'œuvre d'art, l'essence
Le dessin original.
Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, plus tu remontes haut dans la chaîne de production,
dans la chaîne,
plus tu te rapproches de ce qu'est l'œuvre d'art, parce qu'en fait, plus c'est désindustrialisé, et en fait, plus c'est... proche du
l'action
noyau
d'un homme aussi,
c'est ça.
Par exemple, si on avait par exemple le dessin de la première personne qui avait créé Dracaufeu, c'est lui qui a mis les bases de toute la collection Pokémon.
C'est ça. Mais par exemple, Mitsuhiro Arita, qui a dessiné le premier Dracaufeu, tu vois, il fait partie des designers de la Pokémon Company, tu vois, parce qu'en fait, il a été un des premiers. Et pour certains Pokémon, c'est sûr, alors on ne sait pas lesquels, mais on sait qu'il y a des Pokémon, il est le premier à les avoir dessinés d'après des pixels. Il n'y avait aucun autre dessin d'eux. Kensuke Mori ne les avait pas encore dessinés. Donc c'était vraiment, il a été le premier à ancrer certains Pokémon. Et je pense que ça, ouais, il a influencé, il n'est pas noté dans les influenceurs directs, il n'est pas mis comme...
designer.
Ouais, c'est ça, comme design des créatures et des personnages, comme chara-design. Mais pour moi, ça en a été un.
Ok. Donc voilà, Pokémon, ça, il y a quand même un bel avenir quand même devant lui au niveau culturel.
Ouais, bah oui, et on espère qu'ils vont tirer cette licence vers le haut. Il y a déjà eu le Pokémon Go qui a eu un gros succès, même si après en termes de jeu, c'est mitigé. C'est ludique. Il y a du pour et du contre. C'est l'idée hyper intéressante. Moi, ça manquait de stratégie pour moi, donc je me suis pas éclaté dessus. Mais l'idée est géniale, ça relance.
Après, c'était le côté de se balader. Tout le monde joue à Pokémon Go, c'était une folie. Hein.
Ouais, franchement, je les félicite pour ça. Et la mise en place du truc, parce que ça a dû être dingue, t'imagines, le virtuel a influencé le réel. Genre, il y a des espaces...
C'est un peu l'inverse du jeu vidéo.
Des endroits où, par exemple, des bases militaires, où ils ont dit, attendez, parce que vous avez implémenté des Pokémon ici, il y a des gens qui font des folies, qui viennent envahir notre zone, alors que c'est protégé. Du coup, enlever les Pokémon, c'est-à-dire qu'on a demandé à enlever du virtuel sur une zone réelle.
C'est intéressant.
C'est exceptionnel.
Bah merci beaucoup Félix pour tout cet entretien.
Bah de rien, j'espère ne pas être parti trop dans tous les sens.
Félix, tu travailles, je le rappelle, au musée d'Orsay et t'es fan de Pokémon. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite une bonne continuation sur ICI Podcast. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. Merci à tous.